Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Louis.
Si on avait pu parler à l'époque, ça aurait été une forme de thérapie. Et puis on ne demandait pas de la considération. On demandait qu'on nous écoute simplement.
Née d'une famille juive, émigrée en France depuis la Pologne, Esther Senot se retrouve à 14 ans seule à Paris. La rafle de 1942 lui a enlevé sa famille. Orpheline, elle erre de la zone libre jusqu'au Paris occupé et se retrouve à son tour déportée en septembre 1943. Qu'a-t-elle fait de ce récit-là à son retour? Comment s'est-elle mise à parler et comment a-t-elle œuvré pour la transmission? Elle le raconte à Elisa Azoghi-Burlak pour ce dernier épisode de notre mini-série « Ne l'oubliez pas ». Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Je m'appelle Madame Esther Senot. C'est mon nom de femme. Mon nom de jeune fille, c'est Zik. Je suis née en Pologne le 5 janvier 1928. Mes parents ont émigré de Pologne. En 1930, ils ont trouvé un appartement à Belleville. Tout le reste de ma famille avait déjà émigré depuis 1920. Alors finalement, bon, on a vécu normalement comme ça, dans ces quartiers, avec les bandes de gosses. On était vraiment très indépendants, beaucoup de liberté. Et j'avais ma mère qui ne parlait pas français, qui ne lisait pas le français, était une femme très, très intelligente. Quand on allait à l'école, elle nous mettait en rang en disant « On est des étrangers, la France vous a bien accueillis. » Alors ne répondez pas, ne vous faites pas remarquer et surtout apprenez bien parce que ça c'est votre avenir. Nous on ne l'a pas eu mais vous, vous pouvez l'avoir. Et puis finalement, on est arrivé comme ça tranquillement jusqu'à la guerre, jusqu'en 39. Quand les Allemands sont rentrés à Paris, évidemment il y a eu le gouvernement de Vichy qui s'est installé. Pétain qui a reçu les pleins pouvoirs. Donc la première chose qu'il a fait quand il a reçu les pleins pouvoirs, c'est déjà de supprimer la République française et de faire l'État français. Donc il a reçu les pleins pouvoirs. Et 3 mois après, au mois d'octobre 40, il a commencé, vous voyez, la France qui était complètement démolie, démoralisée, quoi. Personne ne savait où on allait, c'était quelque chose d'affreux. Eh bien lui, son principal souci, c'était de s'occuper des problèmes des Juifs de France. Alors finalement, il a commencé à faire ce qu'on a appelé le statut des Juifs. Alors ce statut des Juifs comportait qu'il fallait aller se présenter au commissariat de police, décliner où on habitait, combien de personnes vivaient dans le foyer, les biens que nous possédions. Et une fois que le recensement était terminé, sur les papiers d'identité que les adultes avaient, ils mettaient un tampon rouge et marqué « Juif » dessus. On avait le couvre-feu à 20h. Dans les transports en commun, nous n'avions le droit dans le métro qu'au dernier compartiment. Tout ce qui était jardin public, téléphone public, vous voyez, même les grandes artères étaient interdites aux Juifs. Les squares, vous voyez, les espaces verts et tout, quand il y avait des grilles, il y avait marqué interdit aux Juifs et aux chiens. Et puis finalement, on est arrivé comme ça jusqu'en juillet 42. Donc, il y a eu cette fameuse rafle du Veldiv. Alors, évidemment, il y avait des bruits qui couraient, qu'il y allait avoir des rafles, des ceci, des cela. Alors, comme jusqu'à présent, il n'arrêtait que des hommes, et puis que, dans le fond, tous les hommes qui n'avaient pas été arrêtés ou qui n'avaient pas été se faire recenser se sont cachés, ceux qui ont reçu l'information. Et puis, les autres, tout le monde est resté chez soi en disant, les femmes, les enfants, les personnes âgées, on risque rien. Donc, ils sont arrivés... Ils avaient les fiches de recensement, tant de policiers avaient tant de personnes à arrêter. Ils tapaient dans les portes en disant « Préparez un bagage et vous vous réunissez en bas dans la rue ». Il y a des gens qui ne voulaient pas ouvrir et défonçaient les portes à coups de matraque. J'ai vu sortir moi des vieillards sur des civières. Enfin, ça a été affreux. Alors, je veux dire, à l'époque, j'habitais dans un passage qui s'appelait le passage Ronce. Il faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large. Vous voyez, c'est pas grand. Il y a eu 86 personnes qui ont été arrêtées dans le passage. Je suis la seule survivante du passage Ronce. Alors, la rafle s'est terminée en fin de matinée. Il y avait les autobus qui attendaient. Et puis, quand tous ces gens qui ont été raflés sont montés dans les autobus, évidemment, le quartier s'est calmé. Ils ne sont pas venus chez nous. Et alors, ma mère, qui était très inquiète, parce qu'on ne comprenait pas ce qui s'était passé, hein, on n'avait aucune nouvelle, comme on avait toute notre famille qui habitait dans le même quartier de Belleville, elle avait dit à ma sœur et à moi, allez voir dans la famille, qu'est-ce qui est arrivé, puis des renseignements. Donc, j'ai fait le tour du quartier pendant à peu près une bonne heure, j'ai retrouvé personne. Et quand je suis revenu une heure après, eh ben, au commissariat, ils s'étaient rendu compte qu'ils n'étaient pas venus chez mes parents. Ils ont arrêté donc mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis redescendu dans la rue. Puis je suis sorti du passage et je me suis mis derrière une porte cochère en attendant. Je vais devoir revenir ma sœur. J'ai attendu pas mal de temps. Elle n'est pas revenue. Elle avait été chez une de mes tantes qui habitait beaucoup plus loin dans le quartier. Enfin, je l'ai su après ça. Alors finalement, je me suis dit, je vais aller chez ma belle-sœur. Elle habitait place de la République au début du boulevard Voltaire. Parce que moi, dans mon idée de petit-fils, je pensais qu'il y avait eu les rafles dans notre quartier. Je ne pensais pas qu'il y avait eu des rafles dans tous les quartiers populaires de Paris. Hein. Moi, dans mon idée, je me suis dit, bon, ben, ils sont tranquilles. Alors la gardienne me dit, non, t'inquiète pas, il y a des membres de la famille de ta belle-sœur qui sont venus les chercher, ils n'ont pas été arrêtés, t'inquiète pas. Alors évidemment, je me suis dit, maintenant, où c'est que je vais aller? Et elle m'a gardé une quinzaine de jours. Alors évidemment, il y avait déjà des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant les gens qui essaieraient de sauver des Juifs risquaient de se faire arrêter. Et puis finalement, au bout d'un moment, elle me dit, il faut trouver une solution, moi je ne peux pas te garder, c'est trop dangereux pour toi et pour moi. Alors elle me dit, il faut trouver une solution. Alors moi je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être aller rejoindre mon frère qui est à Pau. Puis je suis arrivé à Pau. Et moi, quand je suis arrivé, mon frère m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, mais les parents ont été arrêtés, tout le monde a été arrêté, je ne sais pas, je savais pas où aller. Et le lendemain, mon frère a été à la recherche de me trouver un hébergement. Alors, il a trouvé dans Pau une chambre de bonne. Vous savez, des contrôles de gendarmes, il y en avait dans toutes les rues de Pau, hein, puisque c'était sous le régime de Vichy quand même. Hein. Et il faisait que la chasse aux étrangers à l'époque. Hein. Alors finalement, je suis pratiquement jamais sorti de cette chambre de bonne pendant 3 mois. Bah, c'est-à-dire que j'y suis resté jusqu'au mois de novembre 1942. Et à cette époque-là, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc, les Allemands en représailles ont occupé toute la France. Donc, mon frère m'a dit, il m'a donné tout l'argent qu'il avait disponible. Et puis, il m'a dit, essaie de trouver une famille, une ferme où tu pourrais travailler. Essaie de te cacher. Alors finalement, je me suis dit, je vais remonter à Paris. Puis, je me suis dit, à Paris, j'y suis pratiquement né. Je trouverais peut-être une solution plus intéressante qu'à Pau où j'étais jamais pas sorti. Alors finalement, j'ai repris le train. Et je suis remonté à Paris. Je suis retourné dans le quartier. Évidemment, il y avait toujours les scellés. J'ai refait le tour du quartier en me disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui est revenu. Je ne trouvais personne. Je suis donc retourné chez la gardienne. Alors finalement, elle a trouvé une solution. Donc c'était la rue Vauquelin. C'était une ancienne école rabbinique qui avait été transformée en orphelinat pour les enfants français dont les parents qui étaient étrangers avaient été arrêtés. Et les enfants avaient été placés par la préfecture de police dans ces orphelinats. J'ai vu le directeur à l'époque qui était là, je lui explique ma situation, il m'a dit, bon, y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est que comme tous les enfants qui sont là sont français, ils sont placés par la préfecture de police, de temps en temps, ils viennent faire un contrôle, la nuit, pour voir si les enfants sont là. Parce qu'à l'époque, la population, une partie de la population française a commencé à comprendre le problème des enfants qu'on arrêtait, des femmes. Donc, il y en a beaucoup des organisations qui, clandestinement, essayaient de faire évacuer les enfants parce qu'ils s'étaient rendus compte que c'était des pièges. Hein. Quand ils avaient besoin de compléter les transports, ils allaient dans les orphelinats. Donc, quand je suis arrivé, il m'a dit, oui, dans la journée, il n'y a pas de problème, mais le soir, il va falloir trouver des hébergements. Tu ne peux pas rester là. Alors tous les soirs, c'était l'angoisse de savoir où on allait dormir. Hein. Ça a vraiment été la galère. Hein. Bon, j'ai dû rester rue Vauclin pendant à peu près 3-4 mois, pas plus. Et puis finalement, j'étais envoyé dans un autre orphelinat qui se trouvait rue Paul-Albert, à côté, au pied du Sacré-Cœur, dans le 18e arrondissement. Alors là, évidemment, je venais d'avoir 15 ans. Et puis, au bout de quelques mois, le directeur me dit, « Tiens, puisque toi, t'es bien débrouillarde, j'ai commandé quelque chose au bazar de l'hôtel de ville. » Il me dit, « Je te donne le ticket, est-ce que tu vas le chercher ?» Je sors et j'arrive donc à la sortie du métro hôtel de ville. Et là, contrôle de police. Mais ce n'était pas une rafle. Ils m'ont dit, vos papiers d'identité. Ben, je lui ai dit, écoutez, j'ai 15 ans, ce n'est pas obligatoire, je n'en ai pas. Ah bon? Alors, comment tu t'appelles? Je ne vais pas vous dire mon nom parce que j'avais un nom concernant étrangère. Alors, il a commencé à me secouer. Il me dit, tu vas quand même finir par nous dire comment tu t'appelles. Oh, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Je n'ai pas répondu. Où c'est que tu habites? Je n'allais pas leur dire que j'habitais dans un orphelinat. Donc, j'ai fait l'idiote. Alors, je me suis retrouvé donc au commissariat. Et puis, au bout de quelques temps, parce que j'ai quand même reçu quelques claques, hein, avant qu'ils réussissent à me faire parler, puis j'ai fini par leur donner mon nom. Hein. Alors finalement, comme ils avaient les fiches du recensement et que je devais être figuré pour être arrêté avec mes parents, alors ils m'ont gardé au commissariat. Alors ça fait que le soir, il y a un quart de police qui est arrivé. Et là, on nous a emmenés à Drancy. Pour moi, ça a presque été un soulagement en disant, j'ai fini de traîner la galère, je vais retrouver mes parents. Jusqu'à présent, on vivait dans l'angoisse en disant, pourvu qu'on ne se fasse pas arrêter, une fois que c'était fait, j'ai dit, tant pis, je vais retrouver mes parents. Donc je me suis retrouvé à Drancy, fin juillet 1943. J'y suis resté un mois. Alors évidemment, quand on est arrivé, il y avait la baraque de fouille des gendarmes qui gardaient le camp de Drancy. Alors évidemment, se déshabiller, on n'avait pas l'habitude à l'époque. Hein. Alors là, ça a été déjà le premier traumatisme. Vous savez, on était assez pudiques à l'époque. On nous expliquait qu'il y avait des transports. Toutes les semaines, il y avait des transports qui partaient pour aller travailler en Allemagne. Tous les gamins, quand on disait on part en Pologne ou en Allemagne, oh oui, on va à Pichipoy. Vous savez, destination inconnue. Alors finalement, on a été désignés pour partir le 2 septembre 1943. Et alors là, tous les transports qui quittaient Drancy, enfin qui quittaient la France, devaient être d'un minimum de 1000 personnes. Il y avait quantité de gens qui étaient pendant des mois à Drancy qu'on ne pouvait pas déporter. Beaucoup de femmes de prisonniers de guerre avec leurs enfants qui ne pouvaient pas déporter à l'époque. Il y avait beaucoup aussi de personnes étrangères, mais d'origine turque ou des choses comme ça, qui étaient alliées avec les Allemands et leur pays d'origine n'avait pas donné l'ordre de les déporter. Donc, ils n'avaient pas toujours les 1000 personnes disponibles. Donc, ils ont été dans la maternité qui dépendait de la Fondation Rothschild. Ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. Et à côté, il y avait la maison de retraite où ils ont sorti des vieillards pour compléter les 1000 personnes. Et là, donc, on est parti en direction de la gare de Bobigny, où là, il y avait un train avec centaines de wagons à bestiaux. Alors, j'étais donc avec mon amie Marie, puisqu'elle faisait partie du même transport. Elle était à côté de moi. Je lui ai dit, oh, ça ne doit pas être pour nous, ça. Bah oui, c'était pour nous. Alors finalement, on nous a précipités dans ces wagons à 70-80 par personne, complètement entassés les unes sur les autres. On nous a donné un seau pour boire et puis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Et les portes se sont fermées, puis le train est parti. Alors vous dire, on a voyagé 3 jours comme ça. Alors le premier jour, ça a été affreux parce que tous ces personnes âgées qui étaient comprimées, qui tombaient, alors, il fallait encore se serrer davantage pour leur permettre de s'asseoir. Déjà, la première nuit, il y a eu pas mal de décès. Les bébés qui hurlaient, ça a été quelque chose d'infernal. La deuxième nuit, ça a été encore pire, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Le tonneau, avec les excréments, s'était renversé. Enfin, avec un peu d'imagination, pour vous rendre compte comment on a terminé ce voyage. Le train s'est arrêté, et là, ils ont ouvert les portes, et c'est là que j'ai vu les premiers Allemands avec les chiens et les capots. Avec leur truc rayé, là, qui à coup de matraque ont fait descendre tout le monde, à vous dire, vous savez, un wagon imbécile, il n'y a pas de marche-pied. Les trois quarts, on voulait respirer, alors vous savez, tout le monde se précipitait. Ça a été une pagaille terrible sur ce quai. Et puis ça a été vite réglé à coup de matraque pour faire descendre tout le monde. Il y avait pas mal de personnes qui étaient mortes pendant ce voyage. Et on nous a alignés sur le quai. Ensuite, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur, qui parlait très bien français, qui a dit les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il y avait quelques camions qui attendaient, avec une croix rouge, vous voyez, comme des camions sanitaires, en disant le camp est à quelques kilomètres. Si vous êtes fatigué, vous pouvez monter dans les camions, ça vous faciliterait l'arrivée au camp. Alors finalement, au moins 650 personnes sont montées dans ces camions. Parce que nous, on était un groupe de femmes, qu'on a été encerclés par les capots en disant « Vous ne bougez pas, vous restez là ». Et la même chose du côté des hommes. Puis tous les autres ont été envoyés vers les camions. À l'autre bout du quai, il y avait trois Allemands avec des chiens. Et ils nous ont fait défiler une par une devant ces trois Allemands. Il y en avait un qui avait une badine et qui faisait un signe à droite, à gauche. On ne comprenait pas, ils nous regardaient des pieds à la tête, puis ils faisaient un signe. Alors on a été sélectionnés à 106 femmes. Et toutes les autres ont été envoyés vers les camions. Et ils ont fait la même chose du côté du groupe des hommes, ils en ont sélectionné 230. Une fois que toute la sélection a été faite, les camions sont partis, et nous, on est partis à pied en direction du camp. Et quand on est arrivé devant le portail, alors là, une fumée, des odeurs épouvantables. Mais alors, quand on a commencé en marchant dans l'allée centrale à voir des cadavres par terre le long de l'allée, on voyait des chiens qui sautaient sur des gens qui avaient l'air des véritables fantômes. On s'est dit, mais vous savez, quand on arrive d'un pays soi-disant civilisé, de se retrouver dans cet univers, on se dit, mais c'est pas possible, on est rentré dans l'enfer. Finalement, on a été mis dans une baraque où là, on nous a dit de nous déshabiller et qu'on allait prendre une douche. Mais nous, comme on avait été sélectionnés pour les travaux, on a vraiment pris une douche froide. On n'avait ni serviette, ni savon, on n'avait rien. Et puis de là, une fois qu'on a été douché, on nous a remis dans une autre baraque où là, il y avait des quantités de femmes qui étaient assises derrière les tables. Ils ont commencé à nous raser entièrement, les pieds à la tête. Et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant, nous n'avions plus d'identité. Dès l'instant où on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on décline notre numéro en allemand. Fallait l'apprendre. Alors on a commencé par leur demander, mais les gens qui étaient dans les camions avec nous, où c'est qu'on va les retrouver? Alors c'est là qu'ils nous ont dit, une heure après on est au courant de tout. C'est là qu'ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, la fumée que vous voyez, tous ces gens arrivent devant, soi-disant, les douches. Alors on leur disait, surtout que leur hantise c'était la panique, on leur disait, vous allez prendre une douche, tout le monde était content, parce que dans l'état de saleté où on était, hein, après trois jours de voyage dans les excréments, tout le monde était content de prendre une douche. On leur disait, par sadisme, vous avez des porte-manteaux, vous avez des numéros sur les porte-manteaux, retenez le numéro, comme ça en sortant, vous récupérez vos vêtements. Évidemment, les gens étaient confiants. Malheureusement, eux, ils rentraient, c'était pas des douches, c'était des chambres à gaz. Et de là, il y avait des commandos spéciaux qu'on appelait les Sonderkommandos qui venaient récupérer les corps pour les mettre dans le crématoire. Alors quand elles ont commencé à nous raconter ça, on nous a dit, mais elles sont folles, elles nous font, c'est pour nous faire peur. Enfin, elles ont commencé à nous raconter, vous savez, vous ne faites pas d'illusions. Ici, vous êtes rentrés pour travailler parce que vous êtes encore en état de travailler, mais le jour où vous ne pourrez plus travailler, ça sera pareil. Hein. Ici, on rentre par la porte, mais on n'en sort que par la cheminée. Il n'y a aucune possibilité de survie. Quand on est arrivé dans les baraques, donc là, il y avait des chefs de bloc. Ça, c'était des déportés, mais pas des juifs. En 43, après, ça a été supprimé en 44. Elles avaient le droit de vie ou de mort, elles avaient tant de personnes à tuer dans la journée. Alors, on nous a mis là-dedans, alors vous savez, avec les cages à poules où on dormait. Dans les baraques, on devait être à peu près 700 personnes. C'était sur trois niveaux. Là, on a commencé à comprendre comment fonctionnait le camp. Alors, le matin, on avait l'appel, donc vers 5h30 du matin. Les chefs de bloc arrivaient avec les matraques pour nous faire sortir de là. Il fallait déjà qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit. Le camp de Birkenau, il fait à peu près 170 hectares. Alors vous voyez la quantité de baraques qu'il fallait comptabiliser, et comptabiliser les morts et les vivants. Puisque les personnes qui étaient mortes et qu'on sortait, il fallait les aligner devant les baraques. Alors ça durait des heures, les appels. Le temps qu'ils comptabilisent. Et puis, on comptait, on recomptait, des fois qu'on s'était trompé. Et puis, une fois que l'appel était terminé, on allait à la cuisine chercher le petit déjeuner. Alors, c'était une espèce d'eau colorée, avec je ne sais pas quoi dedans. On avait le droit à une tranche de pain et à un carré de margarine. Et une fois qu'on avait bu ça, donc on était pour aller travailler. parce qu'on nous avait fait rentrer pour ça. Alors on partait, donc à peu près à deux kilomètres du camp, il y avait un chantier. Et là, on nous a donné des brouettes en bois, de grandes brouettes en bois, avec deux manches devant, deux manches derrière, où on entassait des matériaux dans ces brouettes, c'est-à-dire des pierres, des morceaux de bois, des morceaux de fil de fer, enfin, des matériaux de construction qu'on ramenait au camp. On faisait ça 12 heures par jour. Et le soir, quand on rentrait au camp, il fallait ramener les personnes qui ne pouvaient plus marcher ou qui n'avaient pas supporté. Et ensuite, le soir, donc, on retournait à la cuisine pour aller chercher la soupe que les capots distribuaient. Alors, évidemment, tout le monde se précipitait, hein, parce que c'était toute une journée avec une tranche de pain et un carré de margarine. Le soir, une fois que la soupe était distribuée et tout ça, on avait le droit d'aller dans ces fameuses baraques où il y avait les latrines. Vous avez dû voir, hein, ces grandes baraques avec des centaines de trous. Et alors là, évidemment, comme on avait plus ou moins la dysenterie, parce que quand on avait soif, c'était marécageux là-bas. Donc, avec nos gamelles en fer, on prenait de l'eau des marécages. Alors, évidemment, vous dire la dysenterie qu'on pouvait avoir. Donc, tout le monde se précipitait vers ces latrines. Et à ce moment-là, on a les autres baraques qu'on ne connaissait pas, les gens qui étaient dans les autres baraques, avaient aussi le droit d'aller dans les latrines. Et alors là, évidemment, on faisait la connaissance. C'est là qu'on avait des nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur en 1944. C'est-à-dire qu'on savait que les Allemands commençaient à reculer en Russie, alors ça nous remontait le moral en disant « bon, on est en Pologne, on n'est pas loin de la Russie, on a peut-être une chance d'être libérés ». Bon, ça nous remontait le moral, et bien, ça devait être fin décembre 1943, début janvier 1944. Et là, un soir, dans ces fameuses latrines, ben, j'ai vu arriver ma sœur. Hein. Mais c'est elle qui m'a reconnu, hein, parce que moi, j'étais encore... présentable, si on veut dire. Ça a été affreux, hein. Affreux. Elle a commencé à pleurer en me disant « Mais je pensais qu'au moins toi, tu allais pouvoir t'en sortir, que tu étais plus débrouillarde que moi. » Alors finalement, quand j'ai dit à ma sœur que je travaillais dans les commandes extérieures, elle savait très bien qu'on... personne ne résistait à un hiver là-bas. Hein. La température qui descendait à moins 15 ou moins 20, hein, pratiquement peu nourri et peu vêtu. Hein, on risquait pas de. Personne ne survivait à un hiver à l'extérieur. Hein. Alors, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme. C'était une Belge, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelait Mala. Alors, à l'époque, j'avais dit à ma sœur : oui, mais si tu parles à Mala pour moi, il y a Marie aussi, hein, parce qu'on ne voulait pas se quitter. Hein. Alors, elle a réussi, elle nous a fait rentrer donc, dans un commando à l'intérieur du camp. Alors, ma sœur travaillait dans une baraque où ils faisaient de la couture, et nous, on faisait du tissage, ce qu'on appelait la Webera. Et puis finalement, malheureusement, arrivé en avril 1944, donc c'était déjà le printemps, il faisait beau, et ils nous ont fait quitter la Webera pour retravailler dehors, pour démonter ces fameuses lignes de chemin de fer, pour les amener jusque devant les crématoires, pour les transports des Hongroises qui arrivaient. Alors pendant des mois, on a fait ce travail de ramener ces lignes de chemin de fer, vous voyez. Et puis après, on est retourné dans le camp travailler à la Webera. Mais en attendant, alors bon, il faisait beau, c'était déjà quelque chose. Et puis finalement, arrivé à cette époque-ci, ma sœur a complètement décliné. Et elle a commencé à cracher le sang. Elle avait été mordue par un chien, elle était complètement infectée. Et elle a fini, donc, ils l'ont envoyé ce qu'on appelait le revire, l'infirmerie. Et... un matin, quand j'ai voulu aller voir ma sœur, et puis qu'on m'a dit non, elle est à l'infirmerie revire, j'ai été au revire la voir. Donc je lui dis, Fanny, faut sortir de là. Elle m'a dit non, j'en peux plus, je sais comment que ça va se terminer, laisse-moi tranquille. Ce que je regrette, c'est pas d'être montée dans les camions tout de suite. Au moins les gens qui montaient dans les camions, ils savaient pas où ils allaient. Tandis que ceux qui étaient dans le camp, ils savaient très bien comment ils finiraient. Alors à ce moment-là, elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, écoute, si tu as une chance de survivre, si tu as une chance de rentrer, elle dit, fais ton possible pour que tu puisses raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Elle me dit, tu me promets, enfin pendant 3 ou 4 minutes, elle avait encore une force incroyable pour me serrer, en me disant, mais tu me promets, hein. J'ai promis, puis je suis parti. Puis le soir, ben, elle n'était plus là. Ça date. Moi, je sais que quand je suis arrivé et que j'ai vu comment que ça fonctionnait, j'avais un blanc dans la tête, vous savez, un vide en disant « Je ne peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne. » Une idée fixe. Et pour vous expliquer la survie dans les camps, il faut avoir une forme d'indifférence et pas voir ce qui se passe autour de soi. Se replier sur moi-même en disant « je veux vivre, c'est du jour au lendemain, j'ai vécu, j'ai passé la nuit, on verra demain ». C'était une survie de jour en jour. Et alors, je me disais, moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, ce n'est pas possible. Bah, une idée fixe. Hein. Et alors là, quand on est arrivé au 17 janvier, il y a eu un grand branle-bas dans le camp. Les capots, évidemment, avec leur matraque, nous faire sortir en disant « on évacue le camp ». On évacue le camp, prenez vos affaires, votre couverture, et faut que tout le monde parte. Alors, il y avait plus de grabataires que de marcheurs. Hein. Alors, évidemment, quand ils ont dit ceux qui ne pourront pas sortir, le camp va être miné, il n'y a pas de survivants. Alors, évidemment, tout le monde s'est traîné pour sortir. Hein. Alors, c'est ce qu'on a appelé la marche de la mort. Alors là, le premier jour, on marchait. Alors, avec Marie, on se tenait parce qu'il y avait de la neige, c'était glissant. Vers glacé. Alors, marcher, vous savez, ça faisait 16 mois qu'on était à Birkenau, nous. Hein. Le soir, ils nous ont précipités dans une grange en bord d'une route. On a dormi quelques heures entassées les unes sur les autres pour essayer de se réchauffer. Hein. Au petit matin, ils nous ont fait ressortir, ils ont reformé la colonne. Et là, on a continué à marcher. Alors là, les rangs commencent à s'éclaircir parce que celle qui tombait, eh bien, le SS, il a, avec son pistolet, une balle dans la nuque, et laissé sur le bord de la route. Alors on a marché comme ça pendant jusqu'à Gleiwitz. Je crois qu'il se trouvait entre 80 et 100 kilomètres de Birkenau. Et puis finalement, quand on est arrivé à Gleiwitz, on est arrivé dans une gare de triage. Et nous, notre transport, on est arrivé à Bergen-Belsen. Au bout de 3-4 jours, dans ces wagons, comme il y avait de la neige, on avait de quoi boire. Alors là, ça a été l'horreur. Parce que les baraques étaient pleines de cadavres, les Allemands n'évacuaient même plus, il y en avait même devant les portes des baraques. Il y avait une épidémie de typhus épouvantable. C'était vraiment un charnier à ciel ouvert. Alors finalement, on est resté très peu de temps à Bergen-Belsen parce qu'il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour y travailler dans les usines d'armement. Enfin, finalement, on est arrivé à destination au camp de Flossenbürg, dans le sud de l'Allemagne. Alors là, on nous a mis dans un petit camp à part. On n'a jamais été travaillé parce que toutes les usines étaient pratiquement bombardées. Alors on est resté bloqué dans ce camp de Flossenbürg sans rien faire. Et puis un jour, par miracle, on ne sait pas pourquoi, ça devait être au début d'avril. On nous a fait sortir du camp, on nous a remis dans des wagons à bestiaux. Le train s'est arrêté en Tchécoslovaquie. Et là, les portes se sont ouvertes. Et ce n'était plus des SS qui nous gardaient, ils avaient recruté des personnes d'un certain âge comme militaires. Il y avait des gens, des Tchèques, qui devaient habiter pas loin des lits de chemin de fer. Quand ils ont vu ça, ils sont venus vers les gardes en leur disant « Est-ce qu'on peut leur porter quelque chose à manger ?» Parce qu'il y avait des trains entiers avec les portes ouvertes, avec des cadavres sur ces voies de garage. Alors, ils sont venus nous porter, je me rappelle, un bol de café au lait. Alors, vous savez, j'en ai encore le goût dans la bouche. Alors, on est resté bloqué 2-3 jours donc, en Tchécoslovaquie. Donc, ils venaient régulièrement nous porter à manger. Ensuite, le train est reparti et on est arrivé au camp de Mauthausen en Autriche. Alors, finalement, on est arrivé au camp de Mauthausen. On nous a mis sur la place d'appel du camp. Et là, on nous a dit « Déshabillez-vous, vous allez prendre une douche ». Alors là, ce n'était plus des SS qui nous gardaient, c'était déjà des soldats de l'armée régulière. Alors, on s'est regardé, on a dit « On reste debout ici, si on doit mourir, on va mourir debout, mais pas dans une chambre à gaz. » Alors ils nous ont dit « Non, c'est pas une chambre à gaz, c'est des vraies douches, vous êtes couverts de vermine, il y a des épidémies de typhus, il faut absolument que vous alliez prendre une douche. » On a dit « On ne veut pas le savoir, vous savez, je serais incapable de vous dire que si on s'est lavé dans le camp. » Alors on s'est dit « Au point où on en est, il n'y a pas de douche. » On est resté debout pendant des heures, on a dit « Vous faites de nous ce que vous voulez, vous nous fusillez sur place, mais on ne bouge pas. » Là, on s'était vraiment donné tout le mot. Hein. Personne n'a bougé. On est resté au garde-à-vous comme ça pendant des heures. Et à la fin, quand ils ont vu qu'on ne bougeait pas, ils nous ont propulsés en contrebas du camp où il y avait deux baraques. Et ils nous ont mis là-dedans. Et on est resté dans ce camp. On avait l'appel tous les matins comme si de rien n'était. Et tous les camps étaient déjà libérés. Hein. puisque le camp de Mauthausen, ça a été le dernier en Autriche. On avait l'appel jusqu'au 5 mai 1945, le samedi matin. On a eu l'appel comme d'habitude et j'avais dit à Marie, je sors pas. J'en peux plus, laisse-moi tranquille, je sors pas, je tiens plus debout, j'en pouvais plus. J'ai dit à Marie, c'est fini, laisse-moi tranquille, j'en peux plus. Ils trouveront encore le moyen de nous évacuer, jusqu'où, jusqu'à quand? Alors Marie, elle m'a fait sortir de force pour aller à l'appel du matin. Et puis après, on est rentré dans les baraques, on n'a plus rien fait. Puis comme c'était au mois de mai, il faisait beau, vers midi, on est sorti pour s'asseoir. Vous savez, on avait un petit carré entouré de barbelés, hein, une petite cour. On s'asseyait au soleil. Mauthausen était sur une forteresse en hauteur. On a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. On a vu descendre tous ces hommes avec leurs pyjamas rayés qui descendaient en courant vers nous. Alors quand ils sont arrivés, ils nous ont dit les Allemands sont partis, mais ils ont dit qu'ils vont revenir et qu'ils vont tuer tout le monde. Ne restez pas dans les baraques, sauvez-vous, allez-vous-en. Il dit d'où on s'en va, si vous voulez vous suivez, mais on vous attend pas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais ne restez pas dans les baraques. On est sorti du camp, on a trouvé un petit sentier, si vous voulez, le long du camp. On a commencé à marcher, on a aperçu en contrebas le Danube. Alors on a longé. Alors j'ai vu un panneau, il y avait marqué Passau et Vienne. Alors j'ai dit à Marie, alors là j'avais des ailes. Le matin je pouvais plus me lever, mais là. Alors j'ai dit à Marie, bah tiens, on va continuer dans cette direction, on va se rapprocher de la France. Et puis finalement on a dû faire un kilomètre, pas plus, hein, parce qu'on tenait pas debout. Et on est arrivé dans une clairière où il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français. Alors quand ils nous ont vu arriver et tomber presque à leurs pieds, ils nous ont ramassés et ils nous ont fait rentrer dans leur baraque qui était dans le fond du jardin. Ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait plus rien avaler, on était presque tous dans le coma. Et finalement, là c'était le 5 mai, et le 8 mai, les Allemands ont capitulé, la guerre était finie. Donc il y a eu un régiment qui a occupé cet hôpital, donc des Américains. Alors, les Français ont été les trouver en disant « on a récupéré quelques femmes, on ne sait pas quoi faire, elles sont en train de mourir ». Alors donc la chance qu'on a eue, c'est que dans toutes les armées, il y a des médecins militaires. Donc ils sont venus nous récupérer, ils ont commencé par nous désinfecter, parce qu'ils ont été couverts de vermine. Ils nous ont fait prendre la douche. Alors là, c'est une bonne douche, c'est le cas de le dire. Ensuite, ils nous ont pesés. Et je faisais plus que 32 kilos. Et puis là, évidemment, quand ils ont commencé à nous faire des examens, enfin, à vouloir nous soigner, ben, on avait attrapé le typhus. Et puis, arrivé fin mai, donc 3 semaines après, on tenait à peine sur nos jambes. On a été rapatriés par avion en France, donc à Villacoublay. Et là, donc, je me suis retrouvé avec Marie. On s'est retrouvés toutes les deux. On était les deux seules survivantes des 106 femmes. Et puis là, alors évidemment, on nous a emmenés à l'hôtel du Tessia. Et là, c'est l'après qui a commencé. Vous savez, il n'y avait pas de cellule psychologique, il n'y avait personne. Et alors moi, ce qui m'a été le plus pénible de ce retour, c'était l'indifférence. Vous savez, quand vous êtes là au milieu d'une foule, évidemment, ça faisait un an que la France était libérée. Au bout d'un an, vous savez, les gens, ils réapprennent à vivre, hein. Ben nous, on était là parmi tous ces gens-là, comme si je te le dis, on était devenus transparents. C'était l'indifférence totale quand on est rentré. Après la guerre, il y a le film d'Alain Resnais qui est passé du Hébreu, qui a été interdit. Parce que dans le film d'Alain Resnais, on voyait les camps en France de Pithiviers avec les gendarmes qui gardaient les camps. Les premières chansons de Jean Ferrat, elles ont été interdites. Tout ce qui avait trait à la déportation des Juifs était interdit. Alors finalement, effectivement, les seuls qui ont eu le droit de parler, ça a été les déportés résistants. Alors moi, je trouve que c'était normal, parce que finalement, nous, on a été arrêtés uniquement parce qu'on était Juifs, on n'avait rien fait pour. Eux, ils ont pris des risques. Hein. Ils savaient que s'ils étaient arrêtés, ou ils étaient fusillés, ou ils étaient déportés, bon, ils ont pris des risques, c'était normal. Mais que nous, on était devenus transparents, comme si on n'avait jamais existé, et puis on dérangeait. La seule chose qu'on a eue comme réconfort, c'est qu'à partir de fin 1945, il y a la première association qui s'est créée, la FNDRP, qui a là commencé à fonctionner. Et donc, quand on a eu l'adresse, moi j'y étais, parce que la FNDRP, il y avait et les déportés politiques et les déportés. C'est la seule association qui a accepté les Juifs, parce que ça s'est scindé en deux. L'autre partie, FND, a formé une autre association uniquement avec des portées politiques. Toutes les autres associations ont commencé à fonctionner à partir de 85, pas avant. À ce moment-là, ils avaient réquisitionné un hôtel, le boulevard Magenta. On avait des bons pour aller à l'hôtel. Ils nous ont donné des genres de tickets de restaurant, vous savez, à l'époque. Et puis, c'était terminé. Alors là, j'ai traîné comme ça. Ils m'ont donné un peu d'argent. Hein. Et puis, ils m'ont dit, bah, écoute, cherche du travail. Il fallait aller travailler. Comment voulez-vous avoir des revenus hein? Alors, évidemment, moi, j'ai quitté l'école en 40. J'avais 12 ans avec mon certificat d'études. Et puis, dans l'état où j'étais, vous savez, une fois qu'on a traîné dans Paris comme ça, et puis que personne ne s'occupe de vous, vous savez, complètement, je vous dis l'indifférence, hein. L'indifférence totale. Alors finalement, ni psychiquement, ni physiquement, j'étais apte. Quel genre de boulot voulez-vous que je fasse? Alors j'avais trouvé pendant 3 mois à travailler dans une laiterie. Je me levais à 5 heures du matin. À l'époque, c'était des gros bidons de lait. Vous savez qu'il fallait porter sur le trottoir. Au bout d'un mois ou deux, je ne tenais pas le coup. Hein. Alors j'ai abandonné. Et puis là, voyant que je ne trouvais pas de solution, j'allais quand même, on était quand même suivis parce que rue Leroux, il y avait un dispensaire. Hein. Ouais. On était quand même suivis par des médecins. Alors, quand j'allais les voir, je passais la visite et je lui dis, on n'arrivait pas à dormir. Hein. Alors, ils m'avaient donné des cachets pour dormir. J'ai avalé la boîte et puis je me suis retrouvé à l'hôpital. J'avais un but pour revenir. Et puis la promesse que j'avais faite à ma sœur, parce que dans ces circonstances-là, vous savez, ça me travaillait, parce que si on avait pu parler à l'époque, ça aurait été une forme de thérapie. On ne demandait pas de la considération, on demandait qu'on nous écoute simplement. Et puis vous savez, quand on est écorché vif comme ça, j'en voulais à l'humanité. J'étais devenue agressive, je restais 6 mois à l'hôpital. Hein. Vous savez, entre les hauts et les bas, vous savez, les drogues, ça vous assomme. Et puis, de temps en temps, on refait surface, on replonge. Enfin, bref, peut-être que le traitement qu'ils m'ont fait, ça allait mieux. Bon, je suis sorti. Et puis là, je suis retourné rue Leroux. Alors, évidemment, quand ils m'ont vu, ils étaient un peu étonnés de ce qui m'était arrivé. Alors là, ils m'ont trouvé un studio. Alors, au 6e étage, bien sûr, avec l'eau sur le palier. Bon, enfin, c'était quand même quelque chose à moi. Et puis, toujours pareil, il m'a dit, maintenant, tu vas mieux, essaie de trouver du travail. Toujours pareil. Enfin, je prenais quand même un cachet pour dormir, mais vous savez, le soir, quand on se retrouve tout seul, je m'asseyais dans un coin, j'avais l'impression que je n'étais même pas sorti du camp. Alors, heureusement que j'avais quand même mes occupations, et je traînais le plus longtemps possible le soir avant de rentrer pour me retrouver toute seule. Comme je dis toujours, quand on était à Auschwitz, on a l'impression qu'on n'en est jamais sorti. J'ai eu 3 enfants, 3 fils. Pour moi, j'avais une vie normale. Hein. J'avais mon mari, j'avais mes enfants. Alors, dans le fond, j'ai vécu dans un milieu qui n'avait aucun rapport ni avec la déportation, ni avec les Juifs. Alors, finalement, quand mes enfants ont commencé à aller à l'école communale, qu'est-ce que vous voulez, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 2 lignes. Alors, quand vous avez un homme qui a 6-7 ans, je n'allais pas lui dire, tiens, tu vas t'asseoir, je vais raconter ma vie. Si, par exemple, ça avait été dans les programmes, ils seraient revenus, ils auraient posé des questions. Quand un enfant vous pose des questions, vous trouvez toujours quelque chose à répondre. Mais quand on ne dit rien, écoutez, jusqu'à vous dire, mon dernier fils, il est né en 62. Jusqu'en 62, il n'y avait rien. Donc j'ai eu mes 3 enfants qui étaient au courant de rien. Donc ils ont dû questionner mon mari à cause du numéro, parce que ça aussi, c'était pas l'habitude. Et mon mari a dit, écoutez, votre mère, enfin, je le suis par la suite, elle a une histoire triste. Le jour où elle sera décidée, c'est elle qui vous en parlera. Alors, elle dit, laissez-la tranquille. Tant qu'elle n'est pas décidée, c'est pas la peine de la questionner. Le président Chirac a fini par reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Bien sûr que c'était important parce qu'une reconnaissance officielle au bout de tant d'années, vous vous rendez compte, 95, on est revenu en 45. Alors par la suite, quand les associations juives ont commencé à fonctionner, là, je me suis inscrit à l'Union des déportés d'Auschwitz, à toutes ces associations, à plusieurs associations, là, et là j'ai retrouvé tous les anciens déportés. Alors quand je suis arrivé à l'âge de la retraite, en 82, on s'est installé donc à Saint-Cyprien. Comme je faisais partie de la FNDRP, ils ont des antennes dans toute la France. Quand je suis arrivé là-bas à Saint-Cyprien, avant que je commence à témoigner, il y avait une agence à Perpignan qui faisait des voyages organisés en Pologne. Alors je dis à mon mari, tiens, on va prendre un voyage, on va aller voir. Je ne connaissais pas la Pologne, moi. Alors, on s'est inscrit à ce voyage. Et c'est un voyage organisé. Vous voyez, visiter les villes de Pologne. Et en option, il y avait à Cracovie, il y avait une soirée folklorique ou une visite au camp d'Auschwitz. Et alors là, bon, on a fait la visite d'Auschwitz. Nous, quand moi, j'avais jamais mis les pieds à Auschwitz, parce que nous, on arrivait directement à Birkenau. Bon, alors moi, je l'écoutais, puis il y avait quand même des choses qui me choquaient. Bon, enfin, c'est difficile d'interrompre une guide quand vous habitez dans un endroit que vous découvrez pour la première fois. Je ne pouvais pas lui dire que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Après, on est parti donc en direction de Birkenau. Quand je suis arrivé, vous savez, devant cette étendue déserte, pas un bruit. Je n'avais jamais connu le camp comme ça. Alors la guide, elle commence. Alors là, ça leur écorchait la bouche de dire tous les gens qui ont été tués à Auschwitz, c'était des Polonais. Mais ce qu'elle oubliait de dire, c'était des Juifs, la majorité. Ça, le mot leur écorchait la bouche. Alors de baraque en baraque, elle commençait, puis à la fin, mon mari me tenait la main, il me dit « calme-toi », parce que je commençais à bouillir. Et puis finalement, j'ai explosé, je lui ai dit « écoutez, madame, à Auschwitz, je ne vous ai pas interrompu parce qu'il y avait pas mal d'erreurs dans ce que vous avez dit. Je ne vous ai pas interrompu parce que je n'y avais jamais mis les pieds. Mais à Birkenau, moi, j'y suis resté 17 mois. Et vous savez, 17 mois de Birkenau, j'en ai vu des choses. Et ce que vous racontez, ça ne correspond absolument pas. Alors je dis, vous allez être gentil, maintenant vous allez vous taire, vous allez me passer le micro, parce que les gens qui ont pris l'option pour visiter les camps, au moins qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé. Et j'ai pris la parole. Alors quand je suis revenu, et qu'après, on a commencé à organiser des voyages, ce qui m'a motivé, parce que là, maintenant, toutes les guides qu'il y a, je les connais presque toutes, parce que j'y vais pratiquement tous les ans à Auschwitz. Les guides, maintenant, elles passent par le mémorial, elles sont toutes formidables. Alors maintenant, bon, elles sont formées. Ça nous motive pour continuer. Quand j'ai commencé à parler, ça a été une forme de thérapie. Et puis, quand on voit les retours qu'on a, c'est extraordinaire. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Tenez, regardez, j'ai reçu un livre de poèmes. Alors là, ça date de 2014. Alors vous voyez, c'est des élèves de 3e qui ont 14-15 ans.
C'est eux qui ont écrit ça.
Ben oui, vous voyez.
Vous étiez de simples Français, enfants joyeux mais ignorants, prisonniers, juillet 1942, dénoncés par votre mauvaise étoile, jaune, la couleur du désespoir. Maintenant, vos noms sont gravés sur la pierre froide des mémoriaux, plaques commémoratives, cercueils invisibles, souvenirs de victimes, mémoire des justes, blessures d'un nom de famille. La plupart des Français antisémites ont dénoncé votre origine, depuis scellé sur la porte à remplacer l'œuf de bœuf. Ce moment hante toujours les lieux. On a raflé nos voisins. 20h, on n'avait pas le droit de sortir. Nous avons tous été emportés au poste. L'autobus nous emmenait à Drancy, plus d'école. Il y avait beaucoup de wagons à bestiaux, ils étaient bourrés de monde. Ils nous ont tatoué un matricule sur le bras. Des flammes montaient vers le ciel, il y avait de la fumée. Des milliers d'enfants séparés de leurs parents. Des milliers d'enfants déportés dans la masse. Des milliers d'enfants à la peau sur les os. Des milliers d'enfants tirés par le capot. Tant d'enfants réduits en cendres.
Bon, pour des gamins de 14 ans.
Incroyable.
Et alors, vous vous rendez compte?
Ouais.
Si on témoigne, c'est pour laisser des traces. Et que, comme je leur dis... qui prennent le relais. C'est pour ça qu'arrivé à notre âge, on est des pèlerins, on va de ville en ville pour essayer de convaincre le maximum. Alors, quand on voit les retours qu'on a, vraiment, ça nous motive pour continuer.
Cette mini-série de Fracas, ne l'oubliez pas, a été écrite et enregistrée par Elisa Azoghi-Burlak, montée par Anna Taïeb, Louise Emerlet était à l'édition et à la coordination, et la musique est de Valentin Fayot. C'est une coproduction Pardiprod et Louis Média. Nous remercions la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Rothschild d'avoir permis la production de cette série grâce à leur soutien. À très vite.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.